tu es ressuscité glorieusement. Maintenant que nous nous rappelons ta victoire sur la mort, sur le séjour des morts, sur le monde des ténèbres, sur le péché, sur l'iniquité, sur la condamnation qui accompagne le péché, nous voulons effectivement proclamer que toute la gloire, que tout l'honneur, que toute la puissance, que toute la majesté, que toute la magnificence, que toute l'adoration te revient à toi et strictement qu'à toi. Non pas à nous la gloire éternelle, mais à toi. Non pas à moi la gloire, ô Dieu, mais à toi. Dans tout ce que je suis, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, à toi la gloire. Amen. Alors je lis pour vous le passage qui était à la base de nos réflexions, de nos échanges cette semaine dans Lévitique au chapitre 25. Les sept premiers versets. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit, « Parle aux enfants d'Israël. Tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ, et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson. Et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail, et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. » Peut-être même lire le passage, la fin du passage, à partir du verset 18. Je lis pour vous. « Mettez mes lois en pratique. Observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits et vous mangerez à satiété. » Et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point de nos récoltes? Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année, et elle donnera des produits pour 3 ans. Vous sèmerez la 8e année, et vous mangerez de l'ancienne récolte, jusqu'à la 9e année. Jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. Alors que Dieu bénisse ce temps. Cette semaine, lorsqu'on a eu nos échanges, on parlait du principe de la jachère. Et je rappelle ce que ça veut dire. C'est un terme qui n'est pas très usuel pour nous, à moins qu'on ne soit des agronomes et des agriculteurs bien aguerris. La jachère est un principe par lequel un agriculteur va décider que pendant un laps de temps déterminé, un lopin de terre sur lequel il a l'habitude de cultiver va être mis en repos. Et ici, c'était une prescription de Dieu qui disait au peuple d'Israël, lorsque vous serez rentrés dans la terre promise, lorsque dans 40 ans vous serez rentrés dans la terre promise, voici ce que vous ferez. Non seulement la première année où vous rentrerez dans le territoire, vous observerez la jachère, mais par la suite, à tous les 7 ans, et de surcroît, cela la 50e année, année du jubilé, vous observerez la jachère. Et pendant cette période, vous ne cultiverez pas vos champs, vous ne labourerez pas, vous ne travaillerez pas la terre, vous n'ensemencerez pas, vous ne taillerez pas la vigne, vous n'émonderez pas vos plantations, vos arbres fruitiers ou autres, vous les laisserez en friche. Et au bout d'un an, par la suite, vous pourrez recommencer à travailler, à restaurer le principe traditionnel de la culture. Ce faisant, lorsqu'on appliquait la jachère, évidemment, il fallait avoir foi. Foi en celui qui nous avait demandé de ne pas cultiver la terre, foi en celui qui nous avait demandé d'observer un temps de repos, mais foi surtout dans le fait qu'il allait pourvoir, puisqu'il nous disait, tu ne cultiveras pas, mais moi je ferai fleurir la terre et moi je ferai produire un fruit que j'appellerai un fruit sauvage à la terre pour te nourrir toi, tes serviteurs, ta famille, tes mercenaires et même l'étranger qui vit dans ton territoire. Vous tous, vous aurez l'occasion d'être nourris par ce qui viendra directement de ma main. Et c'était un pas de foi qui était demandé au peuple de Dieu. Mais c'était un pas de foi dans lequel l'objectif principal de Dieu, oui, était d'exercer la foi, mais aussi de favoriser les occasions où Dieu prenait préséance sur toutes les activités du peuple et aussi sur toutes les priorités du peuple. Il rappelait au peuple d'exercer sa foi quant à mettre Dieu en priorité numéro un dans son existence, non seulement pour une journée, mais aussi pour une saison, voire une année complète. Et cette semaine, c'est donc la question de la foi qu'on a abordée. J'espère que à la sortie de cette semaine d'enseignement, votre foi en a été fortifiée. Assurément, Dieu nous a mis au défi. Assurément, il y a des sujets dans notre vie dans lesquels on sait aujourd'hui qu'on doit faire des pas de foi. Des pas d'obéissance qui sont aussi des pas de foi. Des étapes dans lesquelles on fait confiance à Dieu, dans lesquelles on abandonne nos a priori, dans lesquelles on abandonne notre façon de faire qui habituellement nous pousse à pallier, à trouver des moyens pour nous débrouiller au cas où Dieu ne répondait pas comme il était supposé ou comme on croyait qu'il était supposé. Alors je prie qu'effectivement on puisse avoir la foi. Une foi active, une foi qui déclenche des choses dans le monde spirituel, une foi qui déclenche une intimité profonde avec Dieu, une foi qui déclenche une provision inespérée de la part de Dieu, en fait inespérée, une provision promise de la part de Dieu. On vous rappelle que dans le verset 1, lorsque Dieu parlait à Moïse, il lui parlait à la sortie même d'Égypte, après avoir traversé la mer Rouge, s'être débarrassé de l'oppresseur égyptien, et au moment où Dieu va donner les commandements à Moïse, les 10 commandements, mais de surcroît à cela, tout l'ensemble des lois et des préceptes. Ce faisant, Dieu va amener cette notion de la jachère et la notion de la foi, dès le début du voyage qui va les mener vers Canaan. Et on a vu que Dieu devait être au début et avant toute chose dans notre existence. Au début et avant notre entrée même dans la période de bénédiction de Dieu. Qu'on puisse avancer, débuter notre parcours et que notre parcours soit fondé jour après jour sous une obéissance à la parole de Dieu, sous une foi à la parole de Dieu, sous un engagement d'obéissance face à la parole de Dieu. Alors prions ce matin. La prière que je vais faire est courte, est libre, et vous pouvez aller dans d'autres voies que le Seigneur poussera dans votre esprit. Mais si certains n'étaient pas trop inspirés, je vous invite tout simplement à suivre aussi ma prière. Seigneur, combien tu nous as parlé cette semaine sur la question de la foi, te faire confiance même quand les choses nous paraissent illogiques, mais te faire confiance parce que tu as dit et parce que tu as demandé. Te faire confiance parce que ta parole l'a décrété. Seigneur, on a l'habitude de se dépêtrer de nos problèmes, de nos situations difficiles par nous-mêmes. On a cette éducation qui nous est inculquée génération après génération, mais aussi, Seigneur, dans notre propre génération, d'être capable de pallier à toutes les situations qui peuvent survenir. Un homme fort, une femme forte, nous est présenté comme celui qui ne se laisse pas abattre par les situations, mais qui est capable de les contourner, voire de les franchir, de faire de chacune de ces situations un marchepied. Mais l'homme fort, la femme forte, d'après ta parole, est celui et celle qui se confie en l'Éternel. Tu nous dis, Seigneur, que même le jeune homme se fatigue, que celui qui est vaillant vient à défaillir sur le chemin, mais que celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces et qu'il prend son envol comme l'aigle. Alors aujourd'hui, Seigneur, c'est ce que nous comprenons, que notre force vient du fait que nous te faisons confiance. À ton peuple, tu as demandé d'observer la jachère 40 ans avant qu'il n'arrive dans le territoire qu'il devait cultiver, duquel il devait s'emparer et se faire maître. Non seulement être maître de tous ces emplacements qui étaient autrefois entre les mains d'adversaires et d'ennemis, mais aussi être maître face au terrain par lui-même. Le défricher, le désherber, le travailler pour que la terre qui était aride et asséchée puisse être maintenant malléable et prête à recevoir l'ensemencement nécessaire et à être cultivée. Et assurément, lorsqu'un peuple s'empare d'un territoire, un des moyens de le dominer, c'est justement dans la culture. Et tu disais pourtant à ton peuple qu'étant rentré dans le territoire, qu'ils ne cultivent pas tout de suite, mais qu'ils attendent encore un an. Un an dans lequel ils allaient tout simplement dépendre de toi. Pourquoi? Parce que durant tout leur parcours dans le désert pendant ces 40 ans, ils avaient dû apprendre à te faire confiance. Et Seigneur, tu nous mènes jour après jour dans ce même chemin où nous apprenons à te faire confiance, où nous apprenons la marche par la foi. Mais parfois, lorsqu'on arrive dans un territoire que l'on sait être notre terre promise, que l'on sait être profitable, fertile, parfois, Seigneur, on oublie les bonnes habitudes du désert. On oublie les bonnes habitudes du pèlerinage qu'on a fait en ta présence. Et on commence à dépendre de nos propres forces. Seigneur, tu as placé la foi au début de la conquête de Canaan. Tu as placé la foi active ou la mise en pratique et la mise en activité de la foi comme une base de la conquête de Canaan. Et pour nous aussi, Seigneur, nous comprenons que sans la foi, il est impossible de t'être agréable. Sans une foi qui est activée, sans une foi qui opère, il nous est impossible d'être agréable à notre Seigneur et à notre Sauveur. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous voulons revenir à des bonnes bases. Nous voulons revenir à ces bases d'intimité avec toi, basées sur la foi à ton égard. Nous croyons que ce qui est écrit dans cette parole, nous croyons que ce qui est écrit dans ce livre est parfaitement véridique. Que la puissance que tu y as démontrée est encore effective aujourd'hui. Nous croyons effectivement que ce que tu demandais à ton peuple, tu nous le demandes à nous aussi. Que ce que tu demandais à Israël, c'est aussi les mêmes bases sur lesquelles tu veux bâtir cette relation avec ton Église. Ton inquiétude pour le retour du Christ lorsqu'il viendrait chercher son Église, c'était lorsque le Fils de l'homme viendra. Trouvera-t-il encore la foi? Alors Seigneur, je prie comme ce père qui avait un enfant malade, qui dit « Maître, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, viens au secours de ma foi. Oui Seigneur, je dis que je crois, mais je sais que je ne crois pas encore assez. Je sais que je ne crois pas encore correctement. Je sais que ma foi n'est pas encore aussi grosse qu'un grain de sénevé. qui pourrait faire en sorte que je dirais à cette montagne de se précipiter dans la mer et qu'elle se soulèverait et que se jetterait dans la mer. J'ai encore bien des montagnes dans ma vie. J'ai encore bien des montagnes qui se lèvent pour barrer mon chemin. Et j'ai besoin, Seigneur, que ma foi soit fortifiée. J'ai besoin, Seigneur, pour qu'elle soit fortifiée, que cette foi soit basée sur les Écritures. Parce que ta parole nous dit que notre foi vient de ce que nous entendons et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Je comprends, Seigneur, que ma foi ne peut pas être bien portante ou mieux portante sans une connaissance, Seigneur, plus approfondie de ta parole. Alors je te prie, Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-toi à ma sœur, révèle-toi à mon frère à travers cette parole. Fais-nous comprendre, Seigneur, l'intimité profonde entre la foi et l'étude de la parole. Entre le bon état de notre foi et une nourriture quotidienne adéquate de ta parole. Seigneur, j'ai été négligent. Combien de fois, Seigneur, j'ai préféré aller faire des activités pour mon bon plaisir, plutôt, Seigneur, que prendre ce temps de lecture, d'étude de cette parole qui était source de vie, de transformation, de nourriture et qui était la source même de fortification de ma foi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je t'ai déjà prié pour que, il y a déjà plusieurs années, où je te disais, j'arrive pas à saisir ta parole. Et j'ai prié qu'à chaque fois que je plongeais mon regard dans ta parole, que celle-ci puisse exploser devant mes yeux et que je sois ébahi, ébloui par la profondeur et par la richesse de cette parole. Alors je prie la même chose encore aujourd'hui. Je prie pour qu'il se passe encore la même chose dans ma vie. Je l'ai si souvent expérimenté. Mais je prie ainsi, Seigneur, pour que ma sœur et mon frère aient ce même désir de voir ta parole s'éclairer d'une nouvelle lumière à chaque fois qu'ils plongent leur regard dans celle-ci. Même lorsqu'ils étudient un verset qu'ils ont déjà étudié des dizaines et des dizaines de fois, qu'il y ait un mot qui capte leur attention. Un mot qui vient mettre ce verset dans une autre portée, dans un autre niveau. Sachant, Seigneur, qu'à chaque fois que je me nourris de cette parole, je nourris par la même occasion ma foi. Seigneur, je prie que ma foi soit à la base de notre relation. Une foi fortifiée, effectivement, pour que sur ce chemin que je réentame chaque jour, ce chemin dans lequel je m'engage quotidiennement, je le fasse, Seigneur, armé de la foi. Seigneur, je prie qu'il en soit de même pour ma sœur. Aujourd'hui, c'est une journée toute spéciale où on parle du sacrifice que tu as eu à subir pour nous. Seigneur, rappelle-moi que c'est une réalité. Rappelle-moi, Seigneur, que ce n'est pas une fable. Et que je ne réagisse pas par rapport à ce souvenir de ta mort à la croix comme si c'était une autre histoire, comme si c'était une fable, comme si c'était tout simplement des choses que les gens racontent. Mais que cette assurance qui vient avec la foi, cette foi qui est une assurance des choses qu'on ne voit pas. Seigneur, nous n'étions pas là il y a un peu plus de 2000 ans. Lorsque ce vendredi particulier, tu as accepté qu'on te cloue à ce bois. Lorsque ce vendredi particulier, tu aurais pu effectivement appeler les myriades d'anges pour qu'ils viennent à ton secours. Mais en place et lieu de crier vengeance, en place et lieu de jeter condamnation et représailles sur l'humanité, tu as fait cette prière. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et Seigneur, je ne peux pas oublier que dans ce pardonne-leur, tu pensais aussi à moi. Lorsque tu as crié, tout est accompli. C'était aussi que tout était accompli pour moi. Alors ce matin, Seigneur, c'est avec foi que je veux penser à ta mort à la croix. C'est avec cette foi, cette assurance de la véracité de ta parole. Cette assurance de la réalité factuelle de ta parole que je me tourne vers toi. En te disant, Seigneur, je n'étais pas digne de ce sacrifice. Je n'étais pas digne de ton amour. Je n'étais pas digne de ta compassion. Et aujourd'hui, Seigneur, si je suis dit être digne de ton attention, de ta compassion, de ton amour, de ta miséricorde, ce n'est qu'en raison de ton corps qui a été brisé et de ton sang qui a été versé. Seigneur, combien de fois j'ai été comme Pierre, qui s'est tu sur le fait qu'il te connaissait, qu'il a contredit le fait qu'on prétendait qu'il te connaissait. Combien de fois j'ai détourné le regard. Combien de fois je me suis mêlé à ce qui ne te glorifiait pas. Combien de fois de mes lèvres sont sorties de même imprécation que Pierre a prononcé pour faire partie du groupe. Mais faire partie du groupe, c'était aussi se distancier de toi. Combien de fois, Seigneur, j'ai fui comme les 12 l'ont fait. Ta parole nous dit que lorsqu'on est venu t'arrêter, ils sont tous partis. Il y en a même un qui a délaissé sa robe pour ne pas être arrêté. Et certains te suivaient de loin. Pierre, Jean. Seigneur, on n'est pas mieux qu'eux. Très régulièrement, mes lèvres n'ont pas proclamé ton nom, mais ont fait sortir des choses qui n'auraient pas dû sortir. Très souvent, mon attitude a été celle de celui qui ne te connaît pas. Aujourd'hui, Seigneur, je prie que tu ramènes à ma pensée ta croix, que tu ramènes à mes pensées tes mains qui ont été percées, que tu ramènes à mes pensées tes pieds qui ont été percés, que tu ramènes à mes pensées ton côté qui a été percé, ton front percé par cette couronne d'épines, ton dos, Seigneur, qui a été marqué, déchiré par les coups de fouet qu'on a mis sur ton dos. Que tu me ramènes tout cela en pensée, Seigneur. Sachant qu'à chaque coup que tu recevais, qu'à chaque coup que tu acceptais de recevoir, c'était pour moi, à cause de moi, en ma faveur. Et que ce faisant, tu étais l'agneau de Dieu, celui qui était sacrifié par amour pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, je ne veux pas oublier cela, particulièrement aujourd'hui. Alors je prie que ma foi soit fortifiée aujourd'hui par le rappel et le souvenir de chacun de ces événements, de ce fameux vendredi où tu as accepté de livrer ta vie, ton corps, ton sang sur l'autel comme un sacrifice pour la rédemption de ma vie, pour le rachat de ma vie. Seigneur, tout au long de cette journée, nous serons dans la prière, dans la méditation, dans l'étude. Je prie, Seigneur, que tu nous parles et que nous ayons des moments d'intimité profonds avec toi. Parle à ma sœur, parle à mon frère. Permets-nous, Seigneur, de sentir ta présence de façon palpable. Pas comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs qui, une fois que leurs yeux se sont ouverts, se sont demandé, mais est-ce qu'on sentait pas quelque chose de spécial? Est-ce qu'il y avait pas quelque chose qui nous allumait quand il nous parlait? Seigneur, permets-nous de sentir ta présence, sans obstacle, sans frein. Cette présence qui marque notre parcours. Cette présence, Seigneur, qui fait bifurquer notre chemin pour aller dans les voies que toi tu traces devant nous. Alors ce matin, je bénis ma sœur, je bénis mon frère, dans les moments d'intimité qu'ils auront avec toi, dans les moments de recueillement qu'ils auront avec toi. Sois avec eux, parle-leur, fais-leur ressentir ta présence et fais-leur entendre ta voix. Et que leur foi soit si fortifiée qu'ils n'ont aucune hésitation à se conformer à ta parole, à faire le pas de foi que tu leur demandes, à te faire confiance et à te mettre, Seigneur, comme première, toute première priorité de leur existence. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus, ce nom qui a été donné pour le salut de l'humanité, ce nom qui est élevé plus haut que tout autre nom, le nom de notre Seigneur, de notre Sauveur, de l'agneau immolé sur la croix pour le salut du pécheur que nous étions. À toi la gloire et l'honneur, Jésus. Amen. Amen. Donc voilà, c'était notre rendez-vous pour ce matin. Je n'ai pas les noms qui s'affichent aujourd'hui, malheureusement, donc je ne peux pas saluer tout le monde. Mais considérez-vous salués. On se retrouve ce soir à 19h. On va voir comment on va essayer de faire un programme un peu spécial. On est quand même le week-end de Pâques, donc ça sera un temps de prière, oui, mais on va voir qu'est-ce que le Seigneur nous inspire aujourd'hui pour partager tous ensemble. Donc ce soir à 19h, on sera au rendez-vous. Et on vous rappelle, c'est encore l'occasion d'appeler à l'église ou d'envoyer un courriel pour vous inscrire. Il reste encore de la place, donc n'hésitez pas. Si vous étiez ambivalent quant à « j'ai pas envie de porter le masque », personne d'entre nous n'a envie de le porter. Mais honnêtement, si porter le masque me permet de voir les yeux de ma sœur, les yeux de mon frère, qu'on puisse se regarder yeux dans les yeux pendant quelques instants, croyez-moi, ça en vaut la peine. Si porter le masque, ça permet qu'on puisse malgré tout se rassembler en un seul lieu, puis expérimenter ce verset-là qui dit « Voici qu'il est beau et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. » Croyez-moi, je vais porter le masque, mais tout simplement pour profiter de ce glorieux moment où on célèbre le Seigneur ensemble dans un même lieu géographique. Donc, on vous invite à vous inscrire. Pour ce faire, vous écrivez à l'église, c'est toujours la même adresse courriel, donc secrétariat EAJC, pas d'accent, en un seul mot, secrétariat EAJC, @gmail.com, secrétariat EAJC, @gmail.com, ou sinon vous appelez dans les prochaines minutes à l'église au 514-273-8295. Si vous faites défiler un peu la page vers le bas, la page Facebook de l'église, vous allez voir qu'il y a une affiche bleue qui a été mise avec tous les renseignements. Donc vous appelez au secrétariat de l'église et vous donnez votre nom pour l'assemblée de dimanche. Vous nous donnez votre nom et si quelqu'un vous accompagne, vous nous donnez aussi le nom complet de cette personne. Vous nous donnez aussi votre numéro de téléphone et votre adresse courriel, et où votre adresse courriel, parce que toutes les places doivent être confirmées. Votre place n'est valide que si vous avez reçu la confirmation officielle de l'Église. Voilà, alors c'est tout pour ce matin. Ne tardez pas à vous inscrire. Ce matin, je ne sais pas si c'est ma mère ou la sœur Patricia qui vous appelle ce matin. Je sais que l'horaire a changé un peu de droite à droite et à gauche. Donc, une des deux va vous contacter pour vous confirmer votre place. Mais assurément, appelez ou écrivez. On est déjà en train de s'activer en ce sens-là. Alors que Dieu vous bénisse, on se retrouve ce soir, 19h, heure de Montréal, bien entendu. Bonne journée à tous. Au revoir tout le monde.